Ça vous a été annoncé à notre tour du Mexique. On a dit que certains cultes comme ça, on retransmettrait certains points qui nous a paru fondamentaux de l'enseignement qui a été reçu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner un peu une touche hein, de ce qui a été partagé et qui nous a fait tellement de bien et qui est tellement important. Et en particulier, la réflexion sur le but de l'Évangile. Le but de l'Évangile. Et vous connaissez cette parole dans la Genèse qui nous dit qu'il y a une loi spirituelle qui fait que toute chose se reproduit selon son espèce. Et Dieu est un Dieu dont la nature est tout à fait particulière. Et cette nature de Dieu, Dieu qui est un Dieu qui veut se reproduire, c'est ça l'idée. Dieu veut se reproduire. Alors, qui est ce Dieu-là? Et je vous propose de prendre dans Genèse chapitre 1, verset 26, lorsqu'il est dit que Adam a été créé à l'image de Dieu. Il n'avait pas encore péché, il était créé à l'image de Dieu. Et puis, on peut discerner toutes sortes d'aspects de la nature de Dieu. Et en particulier, lorsqu'il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture, etc. Donc, comment est-ce que Dieu se décrit? Comment est-ce que nous, on pourrait le décrire? Souvent, on dit, voilà, qui est Dieu? Ben, Dieu est amour, par exemple. C'est une réponse qu'on peut donner. Ou alors, Dieu est saint, etc. Ici, dans ce texte, on voit qu'il donne des caractéristiques dans le commandement qu'il donne à Adam. Il parle de lui. Il parle de lui. Dieu parle de lui dans le commandement qu'il donne à Adam et Ève, en disant, eh bien voilà, soyez féconds. Soyez féconds, pourquoi? Parce que Dieu est fécond. Soyez féconds comme moi. C'est ça qu'il veut dire le Seigneur. Soyez féconds parce que je suis fécond. Multipliez-vous parce que moi je suis un Dieu qui multiplie. Je suis le Dieu de la multiplication. Hein? Ensuite, il est dit, remplissez la terre parce que moi, dit Dieu, je suis un Dieu qui veut remplir la terre. Ma nature, c'est de remplir les choses, de tout remplir. Ce n'est pas le vide, c'est le plein. Hein? Ensuite, lorsqu'il dit « assujettissez la terre », la nature de Dieu, c'est d'assujettir les choses. C'est de dominer. Dominer, la nature de Dieu, c'est de dominer. Donc on voit dans ce mandat que Dieu donne à Adam et Ève, on voit que Dieu parle de lui. Et quand il dit « voilà, on va faire Adam, l'homme à notre image », eh bien l'image de Dieu, c'est d'abord ça, c'est d'abord la multiplication, c'est la fécondité, c'est la domination. Voilà comment Dieu se décrit. Ça, c'est la nature de Dieu. Et le but de l'Évangile, on va le voir dans plusieurs passages, bien c'est que cette nature qui est la nature de Dieu soit multipliée dans des hommes et dans des femmes. C'est ça le but de l'Évangile. Le but de l'Évangile n'est pas seulement qu'on soit heureux, n'est pas seulement qu'on soit réconcilié avec Dieu. Le but de l'Évangile, c'est que la nature de Dieu le Père soit communiquée à beaucoup d'enfants. Et ça, cette communication-là va porter beaucoup de fruits. Et donc, on rappelle, la nature qui gouverne, qui dirige, c'est une nature qui porte du fruit, qui multiplie, qui domine et qui gouverne. Ça, c'est la nature de Dieu. Alors, on voit que est-ce que dans un endroit dans la Bible, est-ce que ce mandat que Dieu a donné à Adam et Ève, est-ce qu'il a été annulé? Ben jamais. Il n'a jamais été annulé. Et au contraire, juste avant que Jésus monte au ciel, il a rappelé ce mandat, un peu autrement, mais il a intégré ce mandat en disant, voilà, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc. J'ai reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Tout ça, ça nous rappelle ce mandat initial donné à Adam et Ève. Alors, Adam, lui, il a été créé avec Ève, avec cette même nature de Dieu, extraordinaire. Il avait cette nature, il avait cette destinée, il avait toutes les ressources. Toutes les ressources étaient pour Adam et Ève pour accomplir ce qu'ils avaient à accomplir. Il y avait une parfaite harmonie. Et donc, relation avec Dieu, ressources de Dieu, nature de Dieu, destinée de Dieu, mandat de Dieu, et tout ça allait en harmonie. Alors, on sait ce qui s'est passé après, hein, il y a eu cette chute, Adam tombe dans le péché, et les conséquences, c'est en particulier une des conséquences, c'était cette perte de la nature de Dieu. Adam et Ève ont gardé l'image, une ressemblance, bien sûr. Et tout homme, même pécheur ou pas, ou saint, justifié, il y a toujours cette image de Dieu qui reste. Hein. L'image de Dieu, elle est là, elle reste. Mais la nature de Dieu, alors, il l'a perdue. Adam et Ève ont perdu cette nature de Dieu. Et comme on peut reproduire que ce qu'on est. Donc, sans la nature de Dieu, on ne reproduit pas autour de nous des hommes et des femmes, des disciples qui ont la nature de Dieu. Alors, la conséquence de ce péché, il a perdu aussi les ressources. Chassé du jardin, il n'y a plus les ressources. Il n'y a plus les mêmes ressources pour accomplir la mission qu'il avait. Et puis, aussi, on voit que les problèmes sont venus, pauvreté, malédiction, abus d'autorité, les œuvres de la chair, etc. Et voilà. Alors, le but de l'évangile, c'est restaurer tout ce que Dieu avait donné. Et c'est pour ça que les chapitres de la Genèse, en particulier 1 et 2 et 3, sont fondamentaux pour comprendre qui nous sommes, pour comprendre le plan de Dieu, pour comprendre le plan de Dieu non seulement pour nous, pour l'Église, mais pour le monde. Et sans ces chapitres-là, on ne peut pas comprendre le message de l'Évangile. Hein ? Vous savez, on est dans un monde qui, par exemple, ne croit plus en un Dieu créateur. Quand nous parlons aux gens, avant d'arriver à dire, tu sais, tu as besoin de Dieu pour être réconcilié, tout ça, ça c'est un langage, ils ont du mal à comprendre. Ils n'ont même pas la notion d'un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est un homme qui disait, Francis Schaeffer, il disait, si j'avais une heure à passer dans le train avec quelqu'un qui ne connaît rien à Dieu, je passerais 50 minutes à lui parler d'un Dieu créateur, du premier chapitre d'Adam, l'histoire d'Adam et Ève, etc., avant de parler d'un Dieu sauveur. Vous voyez ? Parce que la notion d'un Dieu sauveur, il faut avoir compris la notion d'un Dieu créateur avant. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'ennemi est malin. Qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève la notion d'un Dieu créateur dans toutes les écoles et les universités. Et quand il enlève ce fondement, alors le message de l'évangile d'un Dieu sauveur n'a pas de répercussion parce qu'il ne s'appuie pas sur la notion fondamentale d'un Dieu créateur. C'est tellement important, cette notion d'un Dieu créateur. Alors le but de l'évangile, restaurer l'image de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas seulement pardonner nos péchés. C'est souvent, dans le monde évangélique, souvent on voit la croix comme le lieu où Dieu pardonne. Et ça commence par là. Et souvent dans les prières qu'on entend, moi je me rappelle, jeune converti avec Manuela, ça m'énervait. Excusez-moi, je vous dis quelque chose de... Parce que c'était toujours les mêmes prières. Seigneur, merci, tu as pardonné nos péchés à la croix, etc. Alors au début, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis à la fin, j'ai dit, mais attends, c'est toujours la même chose, quoi. Est-ce que vraiment il n'y a pas autre chose dans l'évangile ? Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait beaucoup plus de choses. Et qu'à la croix, il s'est passé beaucoup plus de choses que le pardon des péchés. Il s'est passé le fait que cette nature de Dieu, elle nous est transmise et elle nous est donnée. Il y a ce qu'on appelle cet échange. Dieu, je te donne mes péchés, je te donne ma vie. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Là, on n'a fait que la moitié, même pas. Et Dieu dit, maintenant tu prends. Tu prends ce que je te donne. Et cette prise de ce que Dieu nous donne, c'est sa nature qu'il veut que l'on prenne. Et ça, c'est par la foi, mes amis. C'est pas quelque chose d'automatique. Dieu dit, prends ce que je suis par la foi. Donc, retrouver la pleine image de Dieu restaurée, la nature de Dieu, pour qu'on puisse de nouveau porter du fruit, être des gens qui multiplions. Posons-nous la question, est-ce qu'aujourd'hui, là où j'en suis, j'ai l'impression de multiplier ? Et sans condamnation, sans culpabilité, Dieu nous dit, ben voilà, il y a peut-être cette appropriation de la nature de Dieu que je t'ai donnée, qu'il te faut prendre, elle est pour toi. Alors souvent on se dit, oui, mais c'est parce que je ne suis pas assez saint, je ne suis pas assez cela. Mais Dieu dit, non, je t'ai donné tout ça, prends-le. Et cette notion-là est vraiment importante. La notion de vaincre est tellement importante dans la Bible, de dominer, que du début à la fin, Dieu parle de ceux qui dominent, ceux qui vont vaincre. Regardez Apocalypse, chapitre 1 à 5. À ceux qui vaincra, celui qui vaincra. Alors, celui qui vaincra, Dieu a déjà vaincu pour nous. Mais il faut comprendre que cette nature de vainqueur, voyez, cette nature de vainqueur, elle est pour nous. C'est pas seulement, Seigneur, je sais que tu as vaincu pour moi. C'est pas seulement ça. C'est, Seigneur, je sais que tu fais de moi un vainqueur parce que ta nature, elle est en moi. Et très souvent dans nos prières, dans ma prière, souvent, malheureusement, on dit, Seigneur, merci pour la victoire que tu as remportée. Et on oublie de continuer en disant, mais cette nature de victoire, elle est pour moi aussi. Elle fait partie de qui je suis. Et ça, c'est, voyez, c'est cet autre aspect-là. Alors, c'est difficile de le dire avec des simples mots, parce que Dieu voudrait que on le comprenne pleinement avec notre cœur, avec notre vie. Et une des choses qu'on a vécues au Mexique, c'est cette transmission de compréhension profonde que cette nature de Dieu, elle nous a été donnée. Donc, le but de l'Évangile, faire de nous des vainqueurs, restaurer cette image perdue, cette nature de Dieu, nous la transmettre. Et le modèle, être des modèles, c'est-à-dire reproduire qui nous sommes. Et si nous avons cette nature de Dieu, alors nous allons reproduire qui nous sommes. Il y a quelque chose d'important. Au début de l'Église, vous avez une différence entre l'Église de Jérusalem, au temps des premiers apôtres, hein, cette Église de Jérusalem, et l'Église d'Antioche. Et là, il y a quelque chose d'étonnant. Dans l'Église d'Antioche, il est dit que c'est là que la première fois, on a appelé les disciples chrétiens. C'est, on n'a pas appelé les disciples de Jérusalem les chrétiens, petit Christ. On les a appelés à Antioche. Quelle est la différence entre cette église de Jérusalem et cette église d'Antioche? C'est un peu bizarre. Pourquoi c'est à Antioche qu'on a dit, là il y a des petits Christ? À Antioche, ils ont discerné une nature, une image plus restaurée encore. Alors à Jérusalem, il y avait des grosses pointures au niveau des apôtres, c'était pas rien. Mais l'église de Jérusalem, rappelez-vous, Dieu leur a dit, vous allez évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre, et ils étaient restés à Jérusalem. Il a fallu que Dieu permette une persécution pour qu'enfin ils accomplissent un mandat et aillent au-delà. Donc c'était plutôt une église repliée sur elle-même. Une église repliée sur elle-même et qui a dû attendre la persécution pour accomplir ce mandat d'aller dominer. Est-ce qu'il faut qu'on attende la persécution pour accomplir ce que Dieu nous a demandé? Et à Antioche, on voit cette église, beaucoup dans l'adoration d'ailleurs, beaucoup dans l'adoration, on va le voir, mais c'était une église qui immédiatement a reçu le cœur de Dieu pour toutes les nations. Et on voit dans Acte 13, ils servaient Dieu. La Bible me dit, ils étaient en train de servir Dieu. Ça veut dire quoi servir Dieu? Les mots, l'expression servir Dieu dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, ça veut dire l'adorer. Nous, on voit service, faire des choses. La Bible dit servir Dieu, c'est l'adorer. On voit dans Samuel, par exemple, le petit Samuel, il est dit, il était dans le temple alors qu'il servait Dieu. 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 2, alors qu'il servait Dieu. Ça veut dire quoi servir Dieu? C'est pas qu'il faisait des trucs. Il était en train d'adorer Dieu. C'est le service de l'adoration. Une fois, j'ai entendu quelque chose qui m'avait peiné, et récemment, c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici, mais qui disait, dans cette église Josué, ils n'adorent pas Dieu, ils adorent la louange. Et ça, vraiment, ça m'a peiné. Parce que premièrement, c'est faux. Mais deuxièmement, jamais on n'adorera assez le Seigneur. Vous entendez? Jamais on l'adorera assez. Et cette adoration qu'on a eue ce matin, parfois ça peut... Moi, parfois, c'est... je dis, mais ça ne correspond pas à qui je suis. Puis Dieu me répond, non, ça ne correspond pas à ta vieille nature. Mais la louange extravagante d'un David, ce David qui se dévait, ce roi qui se dévait, qui danse comme un fou, au point que sa femme a honte de lui, ben c'est comme quelque chose. Ça devait être quelque chose, mes amis. Ça devait être quelque chose. Ça sortait des schémas très moins bien entourés, bien classiques. Et Michal, attention, sa femme, elle a posé un jugement et elle était stérile. Dieu est un Dieu qui multiplie. Comment est-ce qu'on arrive à la multiplication? Par l'adoration. L'adoration amène la nature de Dieu, cette nature qui multiplie. Ça, c'est l'adoration qui l'amène. À Antioche, il est dit, alors qu'il servait Dieu, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit ne vient pas n'importe comment, bien qu'il peut le faire de tout ce qu'il veut, mais il aime venir quand il y a l'adoration. Il aime venir quand il y a l'adoration. Ça me rappelle un témoignage que j'ai entendu au Mexique de ce frère Richard. Un jour, il était en train de louer dans les champs la nuit, et puis tout d'un coup, il entend un ange qui dit « Attention, le serviteur Richard est en train d'adorer, de servir Dieu. » Et tout le ciel était en train d'être mobilisé. Voilà un homme qui va adorer le Seigneur. C'est tellement important pour le ciel et pour Dieu, cette adoration. Alors le Saint-Esprit dans l'église d'Antioche, il descend. Pourquoi il descend? Parce qu'ils sont en train d'adorer. Et il descend et qu'est-ce qu'il va dire? Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission que j'ai pour eux. Esprit de révélation. L'adoration, ça amène l'esprit de révélation. Et l'esprit de révélation, si nous sommes là aujourd'hui, nous, Église de France, c'est parce qu'un jour, une Église a adoré Dieu. Et ça a amené le Saint-Esprit qui a dit à l'évangéliser. Et dans l'évangélisation de Paul et Barnabas, ils ont touché l'Europe pour la première fois au monde. Et l'Europe, l'évangélisation de l'Europe, vient d'une Église qui a adoré. Une Église qui a adoré. Donc, l'importance de l'adoration, une des choses fortes qu'on a vécues au Mexique, c'est cette place de l'adoration. Vraiment. Une place d'adoration qui, alors à la fois l'enseignement de qualité, mais l'adoration. Et parfois jusqu'à ce que ça soit presque insupportable. Tellement c'était fort, tellement c'était même fatigant. Parce que c'est une adoration où on ne pouvait pas rester. Quand vous avez autour de vous des gens qui montent sur les chaises, qui crient, qui sautent, tout ça, tu es là, où tu y vas, où tu t'en vas, quoi. C'est vrai. Et c'était. Alors parfois on arrivait fatigué, on n'avait pas envie, notre chair disait non, mais. C'était. Et puis alors, le coup, levez les mains. Alors toi, t'étais les mains, t'es fatigué, quoi. Hein, au bout d'une demi-heure, les mains en l'air, t'es fatigué. Et à chaque fois, au niveau leadership de louange, on lève les mains et tout. C'était crevant, je peux vous dire. Mais du coup, j'ai vu que l'adoration, selon Dieu, c'est pas confortable. C'est pas confortable. Ça fait du bruit, ça fait bouger. C'est crevant, c'est tout ce que vous voulez. C'est pas confortable. Et cette adoration-là, c'est l'adoration de la Bible. C'est l'adoration biblique, c'est l'adoration d'Antioche, c'est l'adoration qui amène la révélation. Alors voyez, l'adoration, le but, c'est pas seulement l'adoration. L'adoration, c'est, ça nous amène l'esprit qui va nous dire, ben voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Voyez. Et c'est ça, une église qui adore, c'est pas une église qui adore seulement. Le dimanche, les tabernacles, c'est pas, on fait pas que ça. On travaille la semaine, on bosse, d'accord? Mais on travaille à partir d'un climat d'adoration. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Donc à Antioche, ils étaient appelés, chapitre 11, verset 26 des Actes des Apôtres, les petits Christ, appelés les petits Christ. Et on voit qu'à Antioche, il y a deux choses. Vous avez une forte onction prophétique, les prophètes qui parlent, l'adoration prophétique, etc., le Saint-Esprit qui est libéré. Et vous avez en même temps, à Antioche, qu'est-ce qui se passe? L'onction apostolique. C'est-à-dire, en particulier, les enseignements de Paul qui sont donnés, les fondements dans l'Église. Donc vous avez les deux. Dimension prophétique très forte et dimension apostolique au niveau des fondements de l'enseignement, au niveau de la vision internationale très forte. Et ces deux choses, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le concept de ce qu'on appelle une maison apostolique. L'aspect prophétique, ça ressemble un peu à l'aspect féminin. Et l'aspect apostolique, ça parle un peu de l'aspect masculin. Dans une maison, dans une famille, il y a toujours un papa, une maman. Ça, c'est le projet de Dieu. Et je pense qu'au niveau d'une église, c'est pareil. Dimension prophétique, féminine, dimension apostolique, paternelle. Et les deux, ça donne une maison apostolique qui touche et qui influence. Et c'est vraiment ça qui est capital. Et je vous rappelle que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Père. C'est l'Esprit du Père éternel. Il peut parfois y avoir absence de Père dans le monde physique. Mais Dieu me dit, je suis le Père. Mon Esprit est l'Esprit du Père. Donc une maison apostolique, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Pierre Daniel Martin, lorsqu'il est venu la semaine dernière, il a dit une chose vraiment importante. Il a dit, voilà, je sens une connexion apostolique avec l'Amérique du Sud au niveau de cette église, de cette assemblée. Et c'est vraiment ce qu'on a senti là-bas. On a senti une force d'autorité dans l'enseignement, dans l'intercession. Et cette connexion, c'est au-delà d'une relation simple. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'apostolique qui nous vient de là-bas. Et c'est qu'un début, mes amis. C'est qu'un début. Donc, vous, hein? Plus. Masse. Oui. Donc voilà, Paul, doctrine, adoration, onction prophétique, produit la révélation. Et là, une chose importante, lorsque dans Genèse 2, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pourtant, Adam, il n'était pas seul. Il y avait des tas d'animaux autour de lui. Hein? Mais ça ne lui suffisait pas. Pourquoi? Parce que les animaux n'avaient pas la même nature que lui. Et donc, Dieu, c'est pareil. Il est tout seul dans sa Trinité. Il n'est pas tout seul, mais disons, il aime être entouré de personnes qui ont la même nature que lui, de fils et de filles. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a endormi Adam. Et vous savez, Ève est sortie du côté d'Adam. Et Ève a été la même nature qu'Adam. C'est pour ça qu'il a dit, mais c'est formidable. Ish, Isha, homme, femme, c'est formidable. Je vais pouvoir partager. Je vais pouvoir communier. Et ça, notre Dieu veut lever, lève une église, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont la même nature que lui, afin qu'ils puissent communier avec lui, avec elle. C'est ça l'église. Un endroit de communion pour le Père. Un endroit de communion. Le Père qui a des fils et des filles, pas seulement des esclaves. Il ne veut pas d'esclaves. Il lui dit, Galates 4, vous êtes mes fils, vous êtes mes filles adoptées. Et on voit donc que Adam n'était plus seul. Il avait trouvé quelqu'un de la même nature que lui. On voit aussi cette chose importante, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y avait la Sainte Cène, c'est à la croix, il est sorti, Dieu a créé un homme nouveau. Un homme véritable nouveau, qui vient du ciel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une nouvelle humanité qui est née là. C'est l'Église. Cette Église qui est la princesse de Dieu, qui a la même nature que lui. C'est pour ça cette communion que Dieu a pour nous, eh bien, elle est extrêmement précieuse. Nous avons, tu as cette même nature que le Père. Et cette adoration, avec la même nature que lui, produit une rencontre avec ton Dieu qui est appelé à fructifier. L'adoration monte. Le mot adoration, on le trouve plus de 200 fois dans le Nouveau Testament. Par contre, l'enfer, lui, n'est mentionné que 23 fois. Alors, l'important, c'est l'adoration. L'important, c'est pas s'occuper des choses de l'ennemi, d'accord, en premier lieu, mais l'important, c'est s'occuper de notre Dieu et le servir lui. Et je peux vous dire que l'autre, il décampe quand il y a la nature de Christ. Parfois, il y a un combat spirituel qu'on peut mal placer. Lorsque Jésus était sur la barque, il y avait la tempête, il a dit, maintenant, tempête, tu t'arrêtes. C'est pas seulement la parole de Dieu qui a arrêté la tempête, mais c'est la nature de paix. Celui qui est le prince de la paix. La paix en Jésus était trop forte par rapport à la tempête, vous comprenez? Donc, la victoire, elle commence avec le nom de Jésus sur nos lèvres, mais elle finit avec la nature de Christ en nous. Ça, c'est un véritable combat spirituel. C'est-à-dire, c'est la nature de Dieu en toi qui domine. Et parfois, on veut se prouver à force de paroles que l'on domine. Mais Dieu dit, attends, les paroles, c'est important. Mais la nature de mon fils en toi, c'est encore plus important. Et c'est vrai que la nature du fils, ça commence par la confesser. Donc la parole est importante. Je confesse que j'ai la nature de Dieu. Je confesse que je suis son enfant. Je confesse que je suis revêtu de Jésus. Et cette confession, dans la foi, c'est une appropriation. Et je m'approprie la nature de Dieu et ça devient réellement ma nature. Alors, l'adoration produit un esprit de révélation. Et je terminerai par ce passage extraordinaire de Jean 12, qu'on a peut-être déjà partagé ici. Jean 12, cette femme qui, vous savez, il y a les disciples réunis, et puis elle arrive vers Jésus avec un vase de parfum qu'elle brise. Et elle va, avec ses cheveux, elle va laver avec ce parfum les pieds de Jésus. Deux choses que j'aimerais souligner. C'est que cette femme, Jésus dit à ses disciples, voilà, partout on va raconter ce qu'elle a fait. On se dit, mais elle a lavé avec les pieds de Jésus, avec du parfum. Qu'est-ce que vraiment ça a de si extraordinaire? Les disciples qui étaient avec Jésus, qui ont vécu avec lui ne savaient même pas, n'avaient pas compris la mission de Jésus, qui était d'aller mourir pour les hommes et ressusciter. Et Jésus, quand il a dit, mais cette femme, elle m'a embaumé, elle a fait ce qu'il faut faire quand quelqu'un va mourir. Elle avait compris la mission de Jésus. Comment est-ce qu'elle avait compris cette mission de Jésus alors que les disciples n'avaient pas compris la mission de Jésus? La différence, c'est que cette femme était quelqu'un qui adorait. Et l'adoration produit la révélation. Et cette adoration, elle a, adorant Jésus, elle a compris ce qu'il allait faire. Les disciples n'avaient rien compris encore. Mais elle avait compris. Et c'est pourquoi ce passage extraordinaire nous parle d'un principe de Dieu. Une église qui adore reçoit l'esprit de révélation. Et la première révélation que Dieu donne à l'église, c'est qui est Dieu. C'est ça. La première révélation, c'est comprendre qui est Dieu. Tout démarre de là. Et lorsqu'il est question dans l'Apocalypse des anciens, des vieillards qui adorent sans arrêt, il y avait quelqu'un qui nous disait, mais voilà, imaginez, il lève la tête vers Dieu, tac, une révélation d'un attribut de Dieu, d'un aspect de cette personne de Dieu qu'ils n'avaient pas vu. Et tout d'un coup, paf, ils se remettent par terre à se prosterner parce qu'ils ont eu la révélation de cet aspect de Dieu. Et ensuite, ils se relèvent et ils voient un autre aspect de Dieu. Ah là là, et paf, ils retombent par terre et ils se prosternent. Et ça, c'est l'adoration qui va de révélation en révélation. Ça, c'est l'adoration du ciel, l'adoration qui amène la révélation de qui Dieu est. Mais cette femme, elle a avec ses cheveux, elle a oint les pieds de Jésus. Et les pieds de Jésus nous parlent de l'autorité. Les pieds, c'est je marche sur la montre. Ça nous parle de la domination. Une adoration amène une autorité. Un peuple qui adore reçoit un sceptre dans ses mains. Psaume 149, hein, adorez le Seigneur et vous avez dans votre bouche et dans vos mains un glaive et une épée et des jugements qui sont écrits, vous les prononcez. Donc l'adoration amène la révélation. L'adoration amène l'autorité. Et ça, c'est la grande richesse, le pourquoi il nous faut être très sérieux dans nos tabernacles que nous avons ensemble. Ça doit être des moments où on les coche au rouge dans l'agenda. C'est des moments d'adoration où il se passe tellement plus de choses que ce qu'on peut penser. L'adoration n'est jamais une perte de temps. Et cette femme, Jésus dit, elle m'a oint pour le jour de ma mort. Elle avait compris la mission de Jésus. Donc une église apostolique, une église qui favorise la dimension de l'adoration, pas des chants seulement. On peut se faire du bien, si vous voulez, c'est facile à se faire du bien, mais on veut plus. Et je bénis le Seigneur pour ce qui se passe depuis plusieurs années. Il y a vraiment, quand j'ai vu tous les enfants là, avec les bâtons, c'est l'autorité. Parfois, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Hein. Il faut leur expliquer, vous parents, j'espère que c'est bien d'expliquer ce qui se passe. Parfois, au niveau de la louange ici, parfois il faudrait un traducteur en traduction simultanée, vous savez. Il se passe tellement de choses, avec telle bannière qui est sortie, telle danse qui est faite, tel groupe d'enfants qui dansent. Mais on ne voudrait pas tout casser. On pense que chacun est assez grand pour comprendre ce qui se passe derrière le symbole. Voyez, mais il se passe tellement de choses. Et cette prise de bâton, régulièrement, il y a une autorité qui grandit dans l'adoration. Quand il y a une réelle adoration, il y a une réelle autorité qui dégage. C'est pour ça que ce n'est pas étonnant de voir régulièrement ces bâtons qui reviennent. Hein, ce n'est pas un folklore, mais ça signifie quelque chose de très important. Lorsqu'un peuple adore, Dieu s'assoit. Il s'assoit. Dieu siège dans ses louanges. Et ici, toutes les missions que nous avons, je pense à la mission du vestiaire, je pense à la mission de Caleb, je pense à la mission des enseignants dans les écoles chrétiennes, Emmanuel, Collège Daniel. Eh bien, cette mission-là, vous savez, elle est d'autant plus percutante qu'elle découle d'un climat d'adoration où nous nous rappelons qui nous sommes, où nous nous rappelons que cette nature de Dieu, elle est pour nous, et c'est ça qui est important. Dans Job, il est dit, voilà, la pluie, l'eau, elle s'évapore, la rosée, hein, ensuite ça s'évapore, ça monte au ciel, et la pluie, elle descend sur les hommes. C'est le cycle de l'eau. Et dans Job, chapitre 36, verset 27-28, eh bien, quand tous adorent, il y a une vapeur qui monte. Et cette vapeur qui monte, vous savez ce que ça donne? Ça donne la pluie. Et ça donne la pluie sur tout le monde. Tout à l'heure, José, il nous disait, voilà, on adore, on est là pour Guebwiller aussi, pour l'Alsace. Notre adoration, c'est une vapeur. Et il y a des gens qui ne voient que la vapeur. Alors ils disent, oh, ben, ils sont vaporeux, ces chrétiens. ils sont dans les nuages. Mais attention, attention, cette vapeur qui monte, elle redescend en pluie. Et je peux vous assurer que la pluie, parfois, c'est une pluie violente. C'est une pluie violente. Cette pluie-là, c'est une pluie qui est le fruit d'une église qui adore. Je me rappelle la marche qui était faite à Marseille il y a 2 ans, hein, rappelez-vous. Marseille, il ne pleut pas beaucoup. Ils ont fait une marche d'intercession. La pluie les suivait sans arrêt. Et maintenant, moi je suis allé depuis, ça pleut. Alors je dis, c'est la faute à Vito. Mais il y a une pluie qui descend lorsqu'on a un climat d'adoration. Donc voyez, soyons qui nous devons reproduire. Soyons, prenons cette nature de Dieu que Dieu nous donne et nous allons reproduire dans nos partages, dans nos prières, dans nos relations, eh bien, ce que nous sommes. Et nous sommes de la nature de Christ. Nous sommes une race royale. Nous sommes un sacerdoce royal. Ça, c'est qui nous sommes. Et nous ne laissons pas voler qui nous sommes. Voilà simplement ce premier point aujourd'hui que je voulais vous partager, qui me semble un fondement important pour notre vie, notre identité de chrétien et d'église. Seigneur, merci pour qui tu es, parce que ce que tu es, nous le sommes à cause de l'héritage, à cause de ce transfert, à cause de ce que tu as fait. Seigneur, aide-nous à rentrer dans cette dimension apostolique, prophétique, afin qu'on soit une source de bénédiction pour beaucoup. Seigneur, merci pour la rosée qui monte, la vapeur qui monte et la pluie qui vient, pour arroser les sillons secs de cette terre de France. Seigneur, merci pour l'exercice du ministère de chacun qui découle de l'esprit de révélation et de l'adoration et de la communion avec toi. Seigneur, encourage chacun, Seigneur. Merci pour l'esprit d'adoration au milieu de nous et que ça puisse continuer, s'intensifier et que nous puissions devenir pleinement ce que nous sommes déjà, mais ce qui est appelé à grandir encore. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen.